France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Terrorisme, le sens d'un mot. C'est notre série de cette semaine en souvenir des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 en France. Ce matin, tué au nom de Dieu. Le mot terreur désigne littéralement un tremblement épouvanté. Le verbe latin terreo veut dire faire trembler, terrifier. Et tremo, qui lui est lié étymologiquement, signifie trembler de peur. Or, si on remonte dans l'histoire, force est de constater que tous ces mots ont souvent été reliés à la peur intense générée par des phénomènes religieux. Ils évoquent des individus qui se sentent possédés par le divin, terrorisés d'une certaine façon eux-mêmes et par là incités à agir de façon déterminée et pourquoi pas violente. Et ils disent aussi les effets de cette possession sur les autres, sur les spectateurs, à leur tour confrontés à une présence divine terrorisante. Dieu est au centre du terrorisme d'aujourd'hui et c'est une différence importante avec les terrorismes politiques des années 1970, mus par des idéologies soucieuses d'activer la révolution et d'en découdre avec les ennemis de classe. Les terrorismes actuels remettraient-ils au centre la très ancienne idée de terreur religieuse? La ressourcerait-ils? Et ce, tout autant dans la figure même du terroriste, sorte de soldat de Dieu, que dans l'effet recherché et produit sur les spectateurs horrifiés. Bonjour Anne-Clémentine Larocque.
Bonjour.
Vous avez enseigné l'histoire-géographie en lycée, vous êtes aussi chargée de cours à Sciences Po Paris, vous êtes spécialisée en histoire médiévale au départ de votre itinéraire. Depuis quelque temps, vous travaillez à présent donc sur les islamismes d'aujourd'hui, ayant même offert vos services au département antiterroriste du parquet général de la Cour d'appel de Paris, puis au pôle antiterroriste de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Nous évoquerons votre livre « Le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam », livre paru au PUF qui analyse les ressorts complexes du salafisme et du salafo-djihadisme, vous nous préciserez ces mots. Alors, Frédéric Gros devait aussi être des nôtres ce matin, mais un problème l'a empêché de nous rejoindre. Nous ferons quand même référence dans cette émission au point que nous voulions aborder avec lui. Je rappelle que Frédéric Gros est philosophe, professeur à Sciences Po Paris. Il a écrit plusieurs essais, notamment sur la guerre, mais il écrit aussi des romans dans lesquels il s'intéresse beaucoup à la possession religieuse et à ses effets terrifiants, en particulier Posséder, E accent aigu ES, un roman paru chez Albin Michel, et puis un autre plus récent, La première histoire, paru l'année dernière, toujours chez Albin Michel. Alors je vous propose, pour commencer cette discussion sur la terreur religieuse et ce que le terrorisme contemporain ressource d'elle, je vous propose d'aborder une notion pas toujours bien comprise, celle de djihad dans l'islam. Écoutez ce propos du regretté Malek Chebel, anthropologue, qui expliquait avec beaucoup de pédagogie la religion musulmane dans plusieurs ouvrages et qui, pour sa part, met ici djihad au féminin.
La question de la djihad, par laquelle évidemment le musulman se donne à voir à l'extérieur, est très précoce en islam. Elle date du 1er siècle. À mon avis, toutes les guerres saintes sont terminées au 1er siècle de l'islam. Et à partir du 1er siècle, dès l'instant où l'islam avait conquis son assiette, enfin acquis l'assiette territoriale qui était la sienne à ce moment-là, j'estime personnellement, au moment où je vous parle, qu'il n'y a plus eu de guerre sainte, que la jihad est terminée. Évidemment, en disant ça, je vais à l'encontre évidemment de l'opinion générale, à l'encontre des théologiens musulmans, qui, eux, alimentent évidemment la notion de guerre sainte et la perpétuent encore aujourd'hui, parce qu'elle est la sauvegarde de leur pouvoir. Et je pense que tout ce système-là est établi par deux corps sociaux, que moi j'appelle les gens du sabre, Al-Saif, et les théologiens, Al-Qalam, ceux qui manient, si vous voulez, la plume, qui sont les théologiens, ou alors les gens du chapelet. Quelque part, ils sont d'accord sur l'idée d'entretenir le concept de la jihad, la guerre sainte, comme étant un concept moteur de l'islam de toujours.
Vous entendiez donc Malek Chebel qui s'exprimait ici sur France Culture en juillet 2002. Alors Anne-Clémentine Larocque, cette notion de djihad, Malek Chebel dit que historiquement elle date du 1er siècle, on peut dire que du premier siècle de l'islam, c'est-à-dire des 7e et 8e siècles, et qu'après cela, avec une dimension certes de conquête, c'était techniquement terminé, mais c'est, semble-t-il, réactivé par ce qu'il appelle les gens du sabre et par les théologiens. Qu'en pensez-vous, et surtout, pourriez-vous encore davantage définir pour nous cette notion musulmane, islamique, de djihad ?
Vous faites très bien de dire musulmane et islamique, qui va devenir ensuite islamiste dans les temps plus contemporains. Le djihad, donc, c'est la racine trinitaire JHD en arabe, qui signifie globalement effort. On a le grand djihad, qui est donc en fait l'effort quotidien que le musulman doit faire vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi aussi.
Donc ça, c'est individuel.
C'est individuel et c'est dans le Coran. C'est vraiment cité dans le Coran, à plusieurs endroits. Et on a effectivement aussi le petit djihad, qui peut être effectivement un djihad offensif ou un djihad défensif.
Petit djihad. Il est collectif celui-là, mais il est qualifié de petit.
C'est ça qui est intéressant parce que de fait, le grand djihad est plus honorifique et plus honorable puisqu'il est justement, il trait à l'individu qui fait des efforts sur lui-même pour être un bon musulman. Alors que le petit djihad est tourné vers les autres, en réalité.
Oui.
Pour se défendre ou pour effectivement conquérir un territoire. Et là, on revient justement à ce que Monsieur Chebel, le regretté Chebel, a pu dire, c'est qu'effectivement, on va avoir la constitution pendant le 1er siècle, c'est-à-dire après la mort de Muhammad en 632,
oui.
Les califes rachidounes qui vont se succéder, donc jusqu'en 661, et ensuite les Omeyyades, vont effectivement constituer ce qu'on appelle le Dar al-Islam, c'est-à-dire la maison de l'islam, la maison territoriale, le foyer territorial.
Et vous dites, vous aussi, que grosso modo, à la fin du 7e siècle ou début du 8e, le djihad, le petit djihad, qui exigeait de constituer une communauté par la conquête, s'était jugé terminé. Alors, qui a décidé que c'était terminé ? Les théologiens de l'époque
Alors, il faut différencier effectivement plusieurs choses. Vous avez les califes qui vont représenter l'autorité spirituelle et temporelle de l'islam à ce moment-là, qui n'ont pas été d'ailleurs désignés par Muhammad, alors que calife signifie le successeur du prophète.
Donc Muhammad, Mahomet ou Mohamed, enfin tous
oui.
ces...
Mahomet étant péjoratif.
Ah bon, je l'ignorais.
Parce que les Mahométans, c'est une désignation quand même des Occidentaux.
Entendu.
Voilà, vers le 16e siècle pour dire... voilà.
Nous dirons Muhammad, ici.
Je dirais Muhammad.
Le prophète.
Ou Mohamed, comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, effectivement, c'est beaucoup plus neutre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, vous avez justement cette volonté d'unifier un territoire à une pensée religieuse et même à une civilisation. C'est ça qu'il faut comprendre derrière cette djihad dont il parle pendant le 1er siècle. Ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut en faire des choses pour justifier de s'étendre encore plus.
Là, vous parlez du djihad peut-être intérieur et individuel. Celui-là ne se termine jamais.
Jamais.
Mais le djihad, petit djihad collectif, celui-ci, normalement, si ce mot, cet adverbe a un sens, aurait dû s'évanouir, disparaître dans la tradition musulmane.
À condition que les gens qui s'en servent, si vous voulez, pensent une finalité à cette expansion. Si on est dans justement cette idée qu'on doit conquérir et continuer de conquérir, ça a été le cas en Al-Andalus, par exemple, vous voyez ?
Donc, la péninsule ibérique.
La péninsule ibérique, effectivement, où finalement les Omeyyades vont s'installer, et la Reconquista, voilà, exactement, et la Reconquista va durer des siècles et des siècles de la part des catholiques pour reprendre ce territoire-là, justement. Et donc, on va avoir une confrontation de fait sur ce territoire. Donc, en fait, quand on comprend djihad aujourd'hui, effectivement, la notion de territoire doit être aussi entendue. Mais il y a aussi autre chose, c'est l'identité. Puisque le territoire est relié aussi à l'identité arabo-musulmane et donc à l'identité de cette civilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui défendent le djihad actif, c'est-à-dire de combat, sont ceux qui pensent que l'identité arabo-musulmane est menacée.
Est-elle menacée, notamment, pour ceux qui le voient les choses ainsi, par le fait que des territoires anciennement conquis ont ensuite été perdus? Vous avez évoqué la Reconquista sur la péninsule ibérique par les catholiques. Ou par le fait que certains musulmans se sont sentis obligés à l'exil. Alors l'exil, vous en parlez dans vos travaux, je crois que ça se dit comment vous dites ?
La hijra.
Hijra. Et vous mettez cela en parallèle avec la notion de sham. Le sham, c'est ce qu'il faut retrouver par-delà la hijra. Expliquez-nous, s'il vous plaît, alors, Anne-Clémentine Larocque.
Alors d'abord, la hijra, c'est Muhammad, donc le prophète Mohamed, qui finalement part, l'égir, hein, c'est hijra en fait, hein, c'est exactement la même chose, oui. Qui part de la Mecque en 622 pour aller trouver un territoire où on va pas justement le menacer, de fait. Parce que la Mecque d'où il venait, il se fait lui-même menacer par son propre camp. Hein. Donc il part à Médine, et là il va justement considérer que son territoire peut être enrichi, et il va commencer à donc donner à ses compagnons les éléments clés de cette nouvelle religion. Je vais très vite. Hein. Ça, c'est ce qui se passe pour Mohamed. Ce que j'ai constaté au travers des nombreuses audiences et interrogatoires que j'ai pu voir chez les terroristes islamistes, c'est qu'aujourd'hui se rejoue l'idée, justement, et rentre en connexion l'égir avec le sentiment d'exil et finalement la condition d'exilé des personnes très contemporaines à notre époque, dont les familles ont connu l'exil du Dar al-Islam vers l'Occident. Vous voyez, quelque part. Et ça se rejoue aussi. C'est pour ça que cette hijra, elle a autant finalement de publicité et finalement d'attraction en 2013-2015, quand il faut repartir au Cham. Le Cham étant, en fait, une région qu'on appelle le Levant aussi, qui correspond en fait au Proche-Orient, plus une petite partie du Moyen-Orient, qui a été constituée par le califat abbasside et qui représente la région la plus riche, la plus prospère de ce califat abbasside, qui est complètement fantasmé et surfantasmé aujourd'hui par les jeunes apprentis djihadistes. Vous voyez ? Donc on est dans l'histoire, dans le symbolique, et en même temps dans des faits qui ont pu véritablement se produire.
Alors ces notions qui semblent donc religieuses, vous venez de l'expliquer, sont matinées d'enjeux politiques. C'est la question de la nation, en quelque sorte, qui se pose, et du territoire. Donc, des enjeux politiques et religieux sont imbriqués à l'intérieur même de notions religieuses. C'est ce que je comprends, et je dirais que ce problème va se retrouver dans l'ensemble de notre émission aujourd'hui. Mais je voudrais que vous m'expliquiez quand même, avant qu'on aille un peu plus loin, si ces données sont les mêmes dans l'islam sunnite et dans l'islam chiite.
Alors c'est une question qui est justement très intéressante parce qu'elle est au cœur aussi, finalement, de la guerre qui a pu se produire en Syrie, hein, de Daesh, contre justement les fameux rafidis qui sont des chiites. L'islam sunnite a toujours été celui qui était majoritaire et dominant, hein, au sein des califats, omeyyades ou abbassides. Et même ensuite, quand les Turcs et les Ottomans deviennent justement les leaders de l'islam, c'est de l'islam sunnite dont il s'agit. L'islam chiite s'est constitué donc finalement en contrepoint, hein, de cet islam sunnite et a dû accepter des adaptations plus importantes finalement pour continuer d'exister. Hein. Notamment la fameuse taqiya, hein, qui finalement est la dissimulation, dont on parle beaucoup, vous savez, pour Mohamed Merah, etc. Elle vient en fait, finalement, au départ, des chiites qui ont dû cacher leur propre culte, parfois leur rituel, vis-à-vis des musulmans sunnites qui étaient justement majoritaires. Mm-hmm. Donc ça, c'est un premier point. Territorialement, les chiites ont pu acquérir progressivement, au cœur de l'histoire, des territoires qui sont toujours plus ciblés, mais en même temps plus petit, finalement, que les sunnites. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le sait, l'Iran, le Liban avec le Hezbollah, le Yémen, l'Azerbaïdjan, globalement, et une petite partie, effectivement, du sous-continent indien. Par exemple, en Afghanistan, les Hazaras sont des chiites.
Donc, beaucoup de non-arabes. C'est important
énormément
de le dire.
Énormément de
non-arabes. Parce qu'il y a des enjeux justement politiques dans toute cette histoire.
Absolument. Et justement, le lien arabité et islamité est aussi à réfléchir quand on pense aujourd'hui à ce qui se passe dans ces retournements, je dirais, vers le djihadisme. Donc, l'islam sunnite et l'islam chiite n'évoluent pas de la même manière, d'autant que pour certains, notamment les chiites, l'ijtihad, c'est-à-dire en fait finalement la réinterprétation et la reconstitution dans son contexte de ce que peut être le Coran, eh bien finalement est plutôt plus valorisé que chez les sunnites. C'est pourquoi on dit que justement on peut avoir plus de tolérance finalement dans l'islam chiite. Sauf que dans les deux camps, vous avez quand même des radicaux et des gens qui se sont radicalisés.
Et dans les deux camps, si je vous comprends bien, il existe des ennemis qu'on appelle les koufars, c'est ça ?
Les mécréants.
Alors, les mécréants, les koufars mécréants. Alors évidemment, pour beaucoup de sunnites, les chiites en font partie, de même que je crois pour beaucoup de gens dans les deux camps, si j'ose dire, sunnites et chiites, il y a un problème souvent historique avec cette branche de l'islam qu'on appelle le soufisme, qui peut se retrouver à figurer parmi les ennemis mécréants, parmi lesquels il y a aussi, il faut le préciser, les chrétiens, les juifs, je crois, vous me le préciserez, les polythéistes, les athées.
Alors, justement, c'est effectivement la figure de l'ennemi est très intéressante à regarder parce qu'elle est très diverse, elle est très complexe. Vous avez des islamistes, comme les frères musulmans, qui ne vont pas déconsidérer les soufis. Les salafistes, en revanche, les rejettent. Si vous voulez, les frères musulmans vont être plus sur un ennemi extérieur, les juifs, les occidentaux, etc. Alors que les salafistes, par exemple, vont être évidemment complètement arc-bouté contre l'ennemi intérieur.
Donc là, vous parlez de la sphère sunnite, puisque tant les frères musulmans que les salafistes sont des sunnites. Et donc, ils ont une acception différente de l'ennemi. D'où, quand même, ma question qui, je sais, interrompt un instant votre développement. Est-ce que tout ça, c'est dans le texte religieux ou alors, ça vient d'où,
ça peut être interprété dans la sunna, pour certains, avec des hadiths que certains reconnaissent et d'autres ne reconnaissent pas. Tout ça va être aussi une variante, finalement, très contemporaine, encore une fois, liée, selon moi et selon plusieurs, pour le coup, experts et chercheurs, à la chute du califat en 1924, qui va créer un trou, quelque part, historique, important, qui va être compensé ensuite par des idéologies qui vont justement nourrir, finalement, ce manque de l'autorité spirituelle sunnite, par une interprétation de l'époque contemporaine et de ce que l'ennemi, justement, extérieur, vient menacer dans l'identité, justement, sunnite.
Mais donc, dans le texte coranique, il n'y a pas de spécification de ce qu'est l'ennemi, le koufar. Ce sont des interprétations où se mêlent, une fois de plus, religion et politique.
On parle des autres croyants, des mourminines, c'est-à-dire que vous avez les gens du livre qui existent dans le Coran, hein, qui sont évidemment les chrétiens et les juifs. Ils existent,
oui.
C'est-à-dire qu'ils sont pris en compte.
Mais sont-ils des ennemis ?
Alors, dans certaines sourates, et d'ailleurs les frères Klein s'en sont servis pour la revendication des attentats du 13 novembre, vous avez effectivement, spécifiquement, certains versets qui sont contre les juifs, qui à ce moment-là sont ceux aussi qui concurrencent le plus Muhammad et ses compagnons à Yathrib, c'est-à-dire à Médine. Donc là, oui, spécifiquement, on va avoir effectivement eh bien, des mots sur les gens du livre qui ne sont pas que des mots d'acceptation, de tolérance. Mais en même temps, quand vous regardez le système des califats, vous avez un statut qui s'appelle le statut de dhimmi, hein, qui effectivement octroie en fait une possibilité à ces non-croyants musulmans, mais qui sont croyants par ailleurs, de pouvoir rester en territoire du Dar al-Islam et de payer un impôt. Voilà. Donc il y a une zone de tolérance, si je puis dire. On va pas égorger tout le monde, si vous voulez. Ça, c'est absolument pas le cas du texte coranique. On n'a pas ça dans le texte coranique.
Et le chiisme a sa propre interprétation, alors, des ennemis, diffère-t-elle de l'interprétation sunnite ?
Alors oui, parce qu'ils ont été placés eux-mêmes, je vous dis, en minorité. Donc l'acceptation de l'ennemi, de celui qui est différent, de l'étranger, n'est pas la même. Il n'a pas forcément, n'a pas forcément vocation, si vous voulez, à être aussi, tranché. Sauf que, quand vous regardez effectivement ce qui se passe en Iran depuis les années 80, en fait, depuis la révolution de l'Ayatollah Khomeini, on va avoir justement une interprétation beaucoup plus rigoriste vis-à-vis notamment des Occidentaux. Mmh. Voilà, la fatwa de Salman Rushdie, etc. On a tous ça en tête. On va avoir effectivement aussi des kamikazes, des djihadistes qui vont exister chez les chiites pour protéger leur propre identité et qui va être aussi effectivement essentialisé autour de la figure de l'Occident qui est effectivement l'axe du mal, etc.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Tuer au nom de Dieu, c'est le deuxième épisode de notre série sur le terrorisme, cette semaine où nous remémorons cette triste semaine d'il y a 10 ans, en janvier 2015, les attentats à Paris. Alors nous avons évoqué, je suis en compagnie de Anne-Clémentine Larocque, nous avons eu une discussion là à l'instant sur certains concepts musulmans, le problème de savoir si l'interprétation ne sature pas ces concepts de considération politique au gré des envies, des luttes et des fanatismes. C'est une question qui va revenir dans l'émission. Je voudrais maintenant vous proposer d'écouter un politologue, agrégé de philo d'ailleurs, Olivier Roy, qui a soutenu dans son livre « La Sainte Ignorance, le temps de la religion sans culture », c'est un livre paru au Seuil en 2008, une thèse qui mérite qu'on s'y arrête un instant, selon laquelle, en réalité, les islamismes d'aujourd'hui, mais il fait aussi référence à d'autres mouvements religieux non musulmans, ce sont des radicalisations qui sont très incultes en matière religieuse, qui ne sont pas du tout respectueuses des traditions. Ce n'est d'ailleurs pas leur problème, dit Olivier Roy. L'enjeu, c'est une espèce de rapport au sacré, dont on s'emplit, dont on essaye d'être possédé. C'est un tout autre enjeu que celui de la recherche d'une pureté traditionnelle. Écoutez Olivier Roy, qui donnait toute une analyse en ce sens en 2009 à Abdel Wawad Medeb sur France Culture 2009. Donc.
La vérité n'est plus un savoir. La vérité, c'est un contact. On est dans le vrai parce qu'on est en contact avec Dieu ou avec le texte sacré. Il est intéressant de voir que dans certains types de fondamentalisme musulman contemporain, il est extrêmement important de savoir le Coran par cœur. Mais on peut totalement ignorer la grammaire arabe, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est pas un savoir, c'est on intériorise le sacré.
Mais on est totalement loin de ce qu'on appelle la tradition.
Bien sûr. Et c'est pour ça que les mouvements qui convertissent aujourd'hui sont des mouvements modernes. On remarquera d'ailleurs une chose, quand on dit retour du religieux, c'est pas vrai. Les tendances religieuses qui convertissent aujourd'hui sont récentes. Hein. Le salafisme vient du wahhabisme qui est un produit de la fin du XVIIIe siècle. Les évangélismes viennent également de la fin du XVIIIe siècle. Les réveils protestants du XVIIIe siècle. Les mouvements ultra-orthodoxes juifs sont également des fabrications de la fin du XVIIIe siècle. Et Mormons et Témoins de Jéhovah datent du XIXe siècle. Le pentecôtisme date du début du XXe siècle. Donc tout ce qu'on présente aujourd'hui comme un retour du religieux n'est pas du tout un retour. Ce sont des formes nouvelles du religieux qui se construisent explicitement sur la déculturation du religieux.
Et nous entendons là que pour Olivier Roy, ce problème d'une quête de sacré sans intérêt et recherche de culture traditionnelle ne concerne pas que l'islam. Certains mouvements dans d'autres de religions, l'évangélisme par exemple, lui paraissent relever de la même chose. Concernant l'islam, les islamismes contemporains dont vous êtes une spécialiste, Anne-Clémentine Larocque, êtes-vous du même avis qu'Olivier Roy ?
Je suis du même avis qu'Olivier Roy, en ce sens que je vais peut-être aller un peu plus loin par rapport à ce que j'ai entendu, des mots même, des personnes même qui sont dans le djihadisme aujourd'hui, alors qui sont dans cet islamisme le plus radical que l'on peut trouver. Mais je connais aussi...
Racontez un peu juste votre expérience, voilà. Des personnes que vous avez rencontrées, dans quel contexte les avez-vous
rencontrées ? Bien sûr, dans le contexte judiciaire, j'ai eu cette chance d'être... recrutée par l'administration judiciaire, en fait, l'antiterrorisme judiciaire, à la cour d'appel en 2016, juste après les attentats. Ils cherchaient des spécialistes pour décrypter, si vous voulez, les profils radicalisés que des centaines de dossiers, en fait, concernaient. Et donc, j'ai vu beaucoup de dossiers, j'ai vu aussi beaucoup de personnes à l'audience s'exprimer, et aussi en interrogatoire, ce qui était le moment le plus, je dirais, intime avec le juge d'instruction. Où on a pu vraiment questionner les personnes et leur bascule dans la radicalisation islamiste. Et dans ce cadre-là, ce qu'on entend de ce que ces personnes disent, ce que j'entends en tout cas, c'est que le problème n'est plus, comme le disait Olivier Roy, la religion. Il est en lien avec la culture et il est en lien surtout avec l'identité. C'est-à-dire qu'on cherche une cosmétique identitaire très forte, très englobante, pour pouvoir justement s'identifier de manière totale à quelque chose.
Mais quand même, c'est ce qu'il dit en tout cas lui, je ne sais pas ce que vous en pensez, certes quête identitaire, mais à travers une quête du sacré qui évoque peut-être quelque chose qu'on a longtemps appelé le mysticisme, c'est-à-dire s'emplir véritablement d'un sacré avec une dimension émotionnelle très grande, c'est ce qu'il dit, aux antipodes d'un autre aspect de la religion qui est souvent l'étude, la quête des traditions, etc. C'est quand même les aspects émotionnels de la foi qui sont valorisés. Vous êtes
absolument
d'accord ?
Émotionnel, mais aussi une visibilité de cette identité. Il faut se montrer salafiste. Il faut mettre, comme Diams, un djilbab et un hijab. Vous voyez ? Oui. Il faut dire au monde...
Une visibilité, oui.
Il y a une visibilité, c'est pour ça que je parle aussi de problématique identitaire, parce qu'il faut absolument, voilà, une cosmétique que vous avez vraiment mettre sur vous, vous changez de peau, et vous allez effectivement mimer parfois, parce qu'on le voit en détention, ils essayent de mimer les savants. Ils réécrivent plusieurs fois les hadiths, ils s'envoient des références extrêmement classiques sans les maîtriser du tout.
Et ils sont ignorants en vérité, dites-vous.
Et ils sont en réalité ignorants, mais ils essayent de mimer quelque chose. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Et c'est celle-là où je vais peut-être, moi, apporter aussi ce que j'ai compris, grâce aux terroristes que j'ai écoutés, finalement. C'est, finalement, cette volonté de réparer quelque chose. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre du sacré, mais il faut réparer ce qui a pu être sali au moment notamment de l'exil.
Ah, ça c'est très intéressant, parce que vous voyez, en sociologie des religions, il y a un personnage très important, un des fondateurs de la sociologie, qui s'appelle Max Weber, qui était extrêmement cultivé. Il a écrit sur plein de religions, on croit toujours qu'il n'a écrit que sur le protestantisme, c'est inexact. Et il disait, lui, qu'il y a dans toutes les religions un versant intramondain, où on veut agir dans le monde, alors parfois réparer des choses, ou en tout cas y mettre des normes dans ce monde, et un versant extramondain, et c'est là qu'il plaçait, lui, les aspects mystiques, très émotionnels, et par exemple le soufisme dont nous parlions tout à l'heure, et dans l'islam, un mouvement plutôt intérieur, qui extramondain, qui s'échappe un peu du monde. Bon, et tout cela bouleverse, ce que vous dites, bouleverse un peu les catégories de Weber, parce qu'on a à la fois des gens qui cherchent l'émotion intérieure, quelque chose qui évoque le mysticisme, mais avec un engagement dans le monde tellement radical qu'il conduit à tuer. C'est comme s'il y avait une fusion des deux versants classique de la religion telle que Weber les a distingués.
Je dirais même une hybridation. Pour moi, c'est une hybridation. Ce sont des gens qui sont hybridés. Avec effectivement cette... Bon, tout ça est d'ailleurs très inconscient, hein, il faut quand même se le dire. Moi, c'est pour ça que j'ai parlé de la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam dans mon ouvrage. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue, je le pense, à l'insu des individus. Qui va justement reconstituer la petite histoire de l'individu personnel, dans sa famille, qui est arrivé en France, par exemple, dans les années 60, sans vraiment savoir pourquoi, avec des non-dits, avec des mal-dits. Et ensuite, on va avoir justement, et qui va les autoriser à maudire ensuite, d'ailleurs. Et ensuite, on va avoir la grande histoire arabo-musulmane qui va effectivement permettre de justifier, eh bien, une victimisation de l'individu musulman, hein, qui n'est plus un citoyen français. Et dans ce cadre-là, si vous voulez, vous avez tout ça qui va se rejoindre, effectivement, avec ces éléments identitaires de la religion et de la culture, et en même temps, cette émotion,
oui,
qu'ils savent pas trop qualifier, parce qu'il
faut investir dans le monde,
et
de manière violente.
Et politiser, donc. Oui. Voilà.
C'est très intéressant sur le plan, effrayant, mais intéressant sur le plan de l'évolution des religions. Et par exemple, les repentis de Boko Haram qui ont été interviewés en décembre 2017 sur France 2 lors d'un journal télévisé semblent aller tout à fait dans ce sens. Écoutez.
Un centre de déradicalisation mis en place par le gouvernement du Niger. 167 repentis qui ont quitté Boko Haram en échange d'une amnistie sans autre forme de procès. Des soldats de Dieu qui nous racontent de l'intérieur l'un des groupes djihadistes les plus mystérieux et les plus violents qui soient.
Je ne sais pas combien de personnes j'ai tuées consciemment. Mais dans ces situations, tu n'es pas conscient. Tu cherches à tuer ton ennemi, c'est tout.
Beaucoup de ces combattants explique être rentré dans Boko Haram par la religion.
Il venait dans le village, il regroupait les gens et il leur disait « Voilà, c'est ça la vraie religion. Et vous savez, les gens qui ne savent pas, ils peuvent être facilement convaincus. Parfois, ils proposaient de l'argent aussi.
Une fois que tu rentres dans Boko Haram, tu ne peux plus en sortir. On nous dit d'oublier nos familles et nos vies. Si on entend que quelqu'un veut faire défection, alors cette personne est isolée. Et si elle continue, elle est exécutée.
Je me souviens du massacre des civils dans la ville de Bama. On avait regroupé tous les habitants et nos commandants leur ont dit « On ne va pas vous tuer, on va vous garder comme ça ». Mais le grand chef Sheko est intervenu et il a dit « Vous n'avez plus de munitions ou quoi ?» Du coup, tous les habitants ont été exécutés. Je repense tout le temps à ça.
Tout ce qu'on faisait, c'était au nom de la religion, même si ce n'était pas la vraie religion. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre quand tu es à l'intérieur. Il faut en sortir pour savoir.
Tout cela se faisait au nom de la religion, mais, affirme ce repenti de Boko Haram, ce n'était pas la vraie religion. Comme si, lorsqu'on est dedans, ça n'a pas beaucoup d'importance d'être cultivé sur le plan de sa religion. Il s'agit de s'imprégner d'un sacré, un peu grossier, sans connaissance traditionnelle très précise. Et de cette émotion, loin de la garder pour soi dans un mysticisme solitaire, de devenir ainsi un soldat de Dieu avec violence.
Oui, et c'est justement très loin de la spiritualité finalement.
Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un mot très à la mode. Je vous prie de m'excuser. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Tout le monde fait semblant de savoir ce que ça veut dire. Moi, je ne fais pas semblant.
Moi, ce que j'entends quand je vous le dis, c'est que c'est en tout cas l'idée d'une recherche spirituelle, c'est-à-dire de son esprit, par rapport au sens que un courant, une doctrine, une religion pourrait apporter. L'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est de ne pas mourir, entre guillemets, de ne pas disparaître, je pense, pour ces gens-là, qui effectivement le disent d'ailleurs très bien. Il fallait oublier nos familles, il fallait oublier finalement ce qui avait été, et on se met dans quelque chose de nouveau. Ça, je le développe beaucoup, c'est l'idée de la peau neuve. Vous faites peau neuve. Et on a énormément d'ailleurs de terroristes islamistes qui ont eu des problèmes judiciaires auparavant, je dis pas que tous, mais énormément, qui se sont, entre guillemets, salis, et qui se reconstruisent aussi une vertu par cette religion des purs qu'ils vont aller chercher.
Oui.
Fethi Ben Slama, vous savez, le psychanalyste, parle de surmusulmans. Effectivement, on va aller plus loin que les pères qui ont oublié la vraie religion. Et on va encore aller plus loin, donc on va être encore plus pur que le père et le grand-père, qui ont tout oublié finalement. Et c'est ça, c'est le reproche de l'oubli de ce qu'on est, qui va pouvoir être réparé par cette adhésion radicale et totale, et totalisante, voire totalitaire, je vais jusque-là.
Oui.
À cette nouvelle idée, ce que j'appelle idéologie, et non spiritualité d'ailleurs. C'est une idéologie, véritablement. Oui. Les islamismes sont des idéologies, l'islam est une religion. Et c'est là justement où on va avoir ce lien. Sous prétexte de devenir musulman, on va utiliser la religion comme, si vous voulez, un passage qui permet donc de devenir cette espèce d'être complètement investi et absolu dans ce qui n'est pas la vraie religion.
Alors vous faites référence, notamment dans votre ouvrage, à un essai de Amin Maalouf, publié en 1998 chez Grasset, qui s'intitulait « Les identités meurtrières ». Je rappelle qu'Amin Maalouf est un écrivain libano-français qui a reçu le prix Goncourt en 1993 pour son roman « Le rocher » de Tanios, et qui a été élu en 2011 à l'Académie française. Ce qui m'intéresse, qui m'étonne même un peu, c'est qu'au fond, son livre « Les identités meurtrières », il date de 1998, c'est-à-dire avant 2001. Avant la guerre en Irak, avant la guerre en Syrie, avant Al-Qaïda, avant Daesh, etc. En tout cas, même si ça existait pour Al-Qaïda, l'entrée en scène s'est faite après ce livre. Vous pensez, comme lui, que tout était lisible déjà dans les années, disons, dans la dernière décennie du XXe siècle ?
Alors, évidemment, l'ouvrage est majeur, et je le cite plusieurs fois. C'est complètement, effectivement, précurseur, mais pourquoi ? Parce qu'Amin Maalouf a éprouvé lui-même ce sujet des multiples identités qui doivent être ou pas réconciliées. Et il voit ses compatriotes, il voit les gens effectivement de son siècle hésiter. Parce qu'il y a plusieurs propositions à être, en fait, finalement. Et dans ce contexte-là, Amin Maalouf comprend très vite qu'en fait, Al-Qaïda, qui existe depuis 1987 à Peshawar, dans le cadre de la guerre les soviétiques et les afghans, proposent quelque chose qui peut marcher. Parce que justement, ce monde arabo-musulman, ou même musulman, parce qu'il faut peut-être élargir un petit peu, est en train véritablement de se recomposer. Et donc l'offre...
Ça, c'est à cause... Vous diriez que ça a à voir avec la révolution iranienne? C'est là que, ça, que quelque chose s'est...
Mais avec la guerre aussi entre l'Afghanistan et les Soviétiques, la guerre froide. En fait, si vous voulez, vous avez vraiment ce moment, avec la chute du califat de 1924... Vous voyez, c'est vraiment ce XXe siècle qui va faire que le Moyen-Orient se recompose. Il est aussi la cible, bien sûr, eh bien, de l'avidité occidentale par rapport au pétrole, etc. Donc on a plusieurs, en fait, tensions qui vont véritablement complètement transformer, effectivement, l'organisation du monde arabe et du monde arabo-musulman et même du monde musulman globalement. Et d'ailleurs, les printemps arabes vont être aussi une des continuations, finalement, de tout ça. Et dans ce cadre-là, je pense qu'Amin Maalouf comprend qu'il y a effectivement, véritablement, sur l'identité, quelque chose qui se joue. Et il va justement, d'ailleurs, parler de la religion, de l'identitaire, et des propositions qu'on peut avoir. Et ce qui montre très très bien, je trouve, à ce moment-là, alors que nous, on va être confrontés, enfin, de manière beaucoup plus visible, dans les années 2010, à cette problématique-là, il dit, attention, on peut avoir plusieurs identités, sinon on va essentialiser une identité, et le religieux arrive véritablement plus facilement que les autres.
Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant à ce problème. Bon, je sais bien que ça vous fait sortir un peu de votre zone de spécialité, mais nous réfléchissons ce matin à ces sentiments de possession religieuse, d'être possédé, terrifié, et par là terrifiant, parce que cette possession intérieure, il faut lui donner un débouché dans le monde, il faut agir politiquement, il faut, du point de vue de pas mal de djihadistes, réparer, avez-vous dit, faire des choses et non pas rester dans un mysticisme extra-mondain, comme disait Max Weber. Ce problème concerne peut-être d'autres religions aussi, comme s'il y avait un emballement à partir de la fin du XXe siècle. Écoutez par exemple ce reportage sur les violences entre hindous et musulmans au Gujarat, où il y a eu des émeutes et des massacres. Ah, on a un petit problème avec ce reportage. Je suis navrée, alors je suis obligée juste de vous le mentionner. Je ne peux pas vous faire entendre le reportage. Il y a eu plus de 1000 morts dans la ville principale de Gujarat, Ahmedabad. Des violences largement contre les musulmans, les hindous, se sentant menacés par eux. On a l'impression que l'idée que la religion doive mener à des passages à l'acte dans le monde, pour parler comme Max Weber, violent, c'est une idée qui s'est banalisée à partir de la fin du XXe siècle.
Oui, et même légitimée. Vous parliez des soufis tout à l'heure. Vous savez qu'en France, on a quand même des gens qui sont passés à l'acte et qui sont soufis au départ.
Alors que ça, c'est tout à fait étonnant. Normalement, le soufisme, c'est un quiétisme qui reste dans son coin extra-mondain pour garder les catégories.
Sauf que ça, c'était avant.
Oui, sauf que ça, c'était avant.
Et justement, l'hybridation dont on parlait tout à l'heure, elle est là. Elle se joue là. Il faut qu'on accepte de regarder que vous avez des courants qui se radicalisent véritablement au nom de la défense du prophète, au nom d'un certain nombre de choses, et qui font que certains courants, effectivement, peuvent totalement amener au passage à l'acte de manière légitime. C'est une légitimation, véritablement, de la violence. Parce que je pense qu'il y a aussi une responsabilité de certains États, mais ça, on en parle très peu, parce que c'est gênant, de certains États qui vont justifier aussi ces passages à l'acte. Souvenez-vous, quand ce jeune Pakistanais passe à l'acte rue Nicolas Appert, presque à côté des anciens locaux de Charlie Hebdo, le 25 septembre 2020, trois semaines avant le passage à l'acte sur la personne de Patty, on a un jeune Pakistanais qui va au hachoir s'attaquer à deux journalistes qui sont en train de boire un café et fumer une cigarette rue Nicolas Appert. Il passe à l'acte au nom de la défense du prophète, qui est bafouée apparemment, en tout cas son identité est bafouée, sa mémoire est bafouée, depuis que le procès de Charlie Hebdo commence le 2 septembre 2020. Il dira au juge d'instruction, effectivement, on a attaqué mon prophète. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Pakistan, parce que j'ai travaillé sur ce dossier, l'écho au Pakistan est énorme. C'est-à-dire qu'il est félicité par un bon nombre de Pakistanais. Et on creuse un petit peu et on regarde que dans les années 80, le Pakistan a convoqué et a véritablement, finalement, obtenu des lois anti-blasphématoires. C'est-à-dire qu'il justifie qu'on puisse effectivement défendre le prophète quasiment jusqu'à la mort. Vous voyez ? Donc, tout ça est relié, encore une fois, à des courants qui vont dériver vers une radicalité justifiée par le politique.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on retrouve la chose... Bon, alors, Olivier Roy pense que l'évangélisme a beaucoup de caractéristiques de cet ordre. La question des passages à l'acte violent, pour l'instant, n'est pas du tout du même niveau que les djihadismes contemporains. Mais, par exemple, on pourrait évoquer le sionisme religieux. Il faut rappeler que le sionisme, dans sa grande majorité, originellement, n'était pas du tout religieux. Il était même détesté des religieux. Et il y a eu une montée en puissance dans la deuxième moitié du XXe siècle de la fibre religieuse du sionisme. Et au nom de l'intensité d'un rapport au divin, des passages à l'acte très violents, en particulier l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1995 par le colon israélien religieux Yigal Amir.
Celui qui passera à l'acte, le voici. Nationaliste religieux, ce militant s'appelle Yigal Amir. Il s'est fait remarquer en participant au combat des colons pour le contrôle des collines de Cisjordanie. Son crime changera le cours de l'histoire.
Si le terrorisme consiste à tuer pour atteindre un objectif politique, Yigal Amir est le plus grand terroriste du XXe siècle. Je peux dire que des centaines de milliers d'Israéliens justifiaient son geste. Des milliers se disaient même prêts à l'imiter si le Premier ministre, le gouvernement, continuait sur cette voie de la négociation.
La commission d'enquête n'a pas été autorisée à examiner le rôle de Benjamin Netanyahou et des rabbins sionistes religieux dans l'incitation à la violence qui a précédé le meurtre. Principaux suspects, selon l'opinion publique, ils rejettent toute responsabilité dans l'assassinat. Mais le rabbin Yoel Ben Noun crée le scandale. Il révèle que plusieurs autorités rabbiniques voulaient condamner à mort Rabin. Les rabbins concernés démentent toute implication dans ce crime. Ils ne seront jamais inquiétés. Et le rabbin Ben Noun, leur accusateur, ostracisé, menacé, devra changer de domicile sous la protection d'un garde du corps.
C'était un extrait du documentaire Israël-Palestine, l'impossible coexistence, du journaliste Charles Anderlin, diffusé sur France 5 en 2024. Ce qui est intéressant, c'est l'incertitude. C'est du religieux ou c'est du politique? Ou c'est une hybridation, comme vous dites, des deux, à partir du moment où l'intensité d'une foi autorise et même enjoint de passer à l'acte politiquement avec des interprétations libres de ce qu'il faut faire, éventuellement tuer.
Je pense qu'il y a quelque chose qui se rejoue à l'ère contemporaine, mais qui existait finalement auparavant. Quand vous regardez la théocratie pontificale au XIIe, XIIIe siècle, quand les papes justement vont se servir de certains passages de la Bible pour pouvoir s'autoriser vis-à-vis des empereurs et des rois certaines choses, peut-être qu'il y a quelque chose qui se rejoue aujourd'hui effectivement dans cette communautarisation des conflits. Hein, où finalement on a des problèmes géopolitiques classiques, territoriaux, le conflit israélo-palestinien le montre très bien. Et on va avoir effectivement des autorisations légitimées par des relations au divin ou à la foi ou aux religions qui vont permettre justement donc ces passages à l'acte. Et on est dans ce moment-là de confusion totale parce qu'en plus c'est complexe. Et donc les gens peuvent tout... On peut amalgamer très très vite les choses, si vous voulez. On peut raccourcir très très vite les choses, et on le fait d'ailleurs très bien, les politiques comme les médias aussi, parce qu'on n'a pas le temps de décrypter de manière précise justement les contours du politique ou les contours du religieux ou du politico-religieux justement.
Alors si Frédéric Gros avait été avec nous, on est vraiment navré qu'il n'ait pu venir, philosophe, professeur à Sciences Po Paris, auteur d'essais mais aussi de romans, nous aurions pu parler avec lui du problème de la possession religieuse, le fait d'être dans une terreur intérieure à l'égard du divin, d'être comme possédé par lui. C'est un thème qui l'a beaucoup intéressé dans le christianisme. Dans son roman « Possédé » de 2016, il évoque notamment l'ambiance dans la ville de Loudun, qui est dans le département de la Vienne, au centre-ouest de la France, où il y a eu beaucoup de femmes qui se sentaient possédées, une certaine Jeanne de Belciel, au couvent des Ursulines, d'autres encore. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être parce que c'était le féminin, peut-être parce que c'était l'époque, tout cela était très sous contrôle de l'Église, qui n'aimait pas cela du tout, et qui voyait certainement la marque du diable et la trace de sorcière qu'il fallait éradiquer. Et de la part de l'État aussi, je rappelle qu'à la même période, Bodin, fondateur de l'idée de souveraineté en France étatique, a combattu les sorcières trop possédées par le divin. Je voudrais vous poser cette question à vous, Anne-Clémentine Larocque. Est-ce que quand ce sont des femmes qui se sentent des soldates de Dieu possédées, terrorisées et terrifiantes, c'est moins bien vu aussi dans l'islam comme ça l'est longtemps. Ça a été longtemps très mal vu dans le christianisme. Vous avez fréquenté notamment Malika El Haroud. Vous l'avez lu, mais je crois que vous l'avez rencontrée.
Oui, tout à fait.
Qui était-elle? Et c'est un bon exemple. Était-elle tout de suite mal vue, démoniaque, sorcière? Ou au contraire, notre époque aime-t-elle bien ce genre de figure?
Alors Malika El Haroud, c'est une figure du djihadisme contemporain puisque elle a été la femme d'Abdessattar Daman, qui est l'un de ceux qui ont tué le commandant Massoud en Afghanistan juste avant le 11 septembre 2001. Elle a ensuite épousé un deuxième époux qui était Moez Garsalawi, qui a donné sa tazkiya, sa recommandation à Mohamed Merah peu avant qu'il ne passe à l'acte en 2012 sur le territoire national. Donc c'est une femme qui a été avec des djihadistes actifs et qui est devenue une figure, si vous voulez, en contrepoint, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle « Les soldats de lumière », où elle va véritablement exposer de manière extrêmement intéressante, je trouve, son trou identitaire. Elle est d'origine marocaine, elle vit en Belgique, elle va boire, sortir beaucoup pendant son adolescence et un jour, de grâce, comme elle dit, elle va voir la lumière et se dire « Tout ce que j'ai été, je ne peux plus l'être et je vais récupérer ma culture que mes parents ont laissée au pays via l'islam, qui sera en fait de l'islamisme radical par la suite. » Malika El Haroud est décédée en 2023 et j'ai pu la rencontrer dans le cadre d'une enquête, effectivement, sur une autre enquête, pas sur elle, on l'auditionnait, en 2022. Et elle me dira à ce moment-là, donc on est en 2022, les talibans ont repris Kaboul en août 2021. Elle me dira, le lieu où j'ai vécu le plus heureuse, où je pourrais retourner aujourd'hui, c'est pas le Maroc, surtout pas. C'est un pays de munafikoun, c'est-à-dire d'hypocrites. Mais c'est l'Afghanistan où j'ai été la plus heureuse.
C'est vrai qu'il y a quelque chose des possédés, E accent aigu ES, du XVIIe siècle français qu'étudie dans son roman Frédéric Gouraud. Mais est-elle désarmée? Parce que l'enjeu au XVIIe, dans le christianisme en France, c'est de désarmer ces femmes, de les qualifier de sorcières, de les dévaloriser. Non. Au contraire, Malika El Haroud est-elle valorisée?
Oui. Aujourd'hui, par la communauté djihadiste, bien sûr, les femmes, les mujahidades, hein, ce qu'on appelle justement celles qui se battent, il y en a en fait depuis longtemps. Il y en a eu au Liban qui ont été des kamikazes, il y en a eu aussi dans le Nord-Caucase où des femmes se sont fait exposer dans les années 90-2000 lors des guerres russo-tchétchènes. On a évidemment aujourd'hui, depuis l'affaire des bonbonnes de gaz, on le sait, des femmes qui d'ailleurs sont condamnée de manière extrêmement forte aujourd'hui en France. Inès Madani, celle qui était justement le leader des bonbonnes de gaz, a pris 30 ans, je vous le rappelle. Donc aujourd'hui, elles ne sont plus sorcières, elles sont considérées justement par nos autorités comme équivalentes, en termes de menaces et de dangers, à des djihadistes qui combattent sur zone, etc. Donc aujourd'hui, on a aussi cette idée que les femmes peuvent être à prendre au sérieux. C'est pas que des hystériques qui sont possédées, si vous voulez. On a quand même évolué sur cette idée-là.
Vous pensez qu'on va avoir, si tout ce que vous décrivez continue, ce n'est pas un souhait, hein, c'est une crainte. Nous allons avoir de grandes tueuses, kamikazes, femmes islamistes, autant que nous avons pour l'instant d'hommes?
Potentiellement, c'est possible.
En tout cas, pour vous, ça n'est pas un barrage, le fait d'être une femme. Je parle dans l'image que cela donne au sein des milieux islamistes.
C'est un barrage dans l'accession directe, si je puis dire, parce que de toute façon, ils restent quand même persuadés que les femmes sont le complément des hommes, hein, que ce n'est pas complètement leur égal. Mais s'il est nécessaire de les utiliser, ils le feront. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des femmes émancipées qui veulent faire partie vraiment du combat. Ça, je pense que c'est, on est plus dans une ère où ce ne sera pas possible.
Et ce texte de Malika El-Haroud, Les soldats de lumière, qui a déjà une vingtaine d'années, si je ne m'abuse, il est paru en 2004, est prémonitoire, est un texte important. Si on veut comprendre quelque chose à ce qui se passe en termes de terreur religieuse qu'il faut transmuer en terrorisme éventuellement, il faut lire ce livre.
Alors, il n'est pas toujours bien écrit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, moi, je l'ai trouvé assez fondamental pour comprendre cette mue identitaire. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment faire partie de ce monde-là. Et elle est très fière d'avoir été aux côtés d'Abdesattar Daman, qui a tué le commandant Massoud en Afghanistan. Ça, c'est certain. Et elle va devenir une figure, dans d'autres dossiers, certaines la jalouse. On est quand même dans une époque où des figures, y compris féminines, peuvent émerger et peuvent devenir des modèles.
Oh, my name, it means nothing. And my age, it means less. For the country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up to the laws to abide, and that the land that I live in has God on its side. All the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charge and the Indians fell. The cavalry's charge and the Indians died. Oh, the country was young then, with God on its side. The Spanish American war had its day, and the Civil War to us was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize, with guns in their hands and God on their side. The First World War.
C'est une reprise par les Neville Brothers de la chanson de Bob Dylan, With God on Our Side, donc en 1989, cette reprise. Ça a l'air doux comme ça, mais ne vous y trompez pas, les paroles disent toutes les horreurs et les justifications qu'on peut faire et avoir lorsqu'on prétend avoir Dieu de son côté. God on his side, on our side. Merci beaucoup Anne-Clémentine Larocque. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la puissance et aux limites du calcul. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi l'éthique dépasse-t-elle le calcul ? Le calcul est dans la vie humaine un phénomène à double face et en aucun cas de toute façon un phénomène simplement neutre. Ce n'est jamais simplement cette opération logique qu'il est pourtant le calcul d'une manière très simple qui consiste à réduire un phénomène à un ensemble d'éléments distincts et à faire dessus un certain nombre d'opérations plus ou moins compliquées mais dont certaines sont très simples. Telle est l'opération du calcul. Vous avez des fruits devant vous. Si vous voulez calculer leur nombre parce que vous en avez besoin pour la vie pratique, vous allez réduire ces postes l'homme à un ensemble d'éléments et ne plus faire tenir compte de leur qualité, sauf si vous voulez distinguer les pommes pourries et les pommes qui ne le sont pas, mais alors vous aurez deux ensembles et ensuite, de nouveau, il faudra les prendre comme des éléments et faire dessus une opération de répétition qui conduit à leur somme. Le calcul est donc une opération neutre, mais seulement en apparence, car en réalité, elle est très valorisée chez les êtres humains. Certains admirent le calcul, sont fascinés, admirent ceux qui savent calculer, et de toute façon, la puissance de calcul est aujourd'hui si phénoménale qu'elle devient un objet en soi. Mais d'un autre côté, on a tendance à critiquer le calcul dans la vie humaine, et notamment dans la vie morale. On considère qu'un être calculateur est un être froid. On a caricaturé aussi la méchanceté du calcul. On considère que certaines morales sont seulement calculatoire. De grands philosophes ont, à tort ou à raison, critiqué la raison elle-même, justement, comme une raison seulement calculatoire, une raison qui réduit les humains à des pions, à des éléments dans la vie éthique. Il y a là une caricature, car il y a sans doute une manière très juste d'introduire le calcul dans la vie morale. C'est ce qu'ont fait les utilitaristes, et certains, encore une fois, les critiquent comme étant du côté de la raison calculatrice, du raison de ces méchants calculateurs. Pourquoi ? Parce que l'utilitarisme considère justement qu'on peut réduire la vie morale des humains à des éléments simples sur lesquels on peut faire des opérations simples. Ces éléments simples, ce sont les plaisirs et les peines. Alors vous pouvez calculer la justice ou l'injustice d'une mesure politique ou d'un choix moral individuel en calculant le nombre de plaisirs qu'il implique par rapport au nombre de peines. C'est le calcul des bénéfices et des peines qui peuvent orienter la vie éthique. Par exemple, en médecine, on calcule les coûts et les bénéfices d'un médicament sur une maladie. S'il a plus d'effets négatifs que d'effets positifs, alors on ne va pas vous administrer ce médicament. Le calcul peut donc être éthique, mais il est vrai pourtant de dire, et c'est ce qu'on peut concéder aux critiques de la raison calculatrice qui parfois vont trop loin, jusqu'à la caricature et même jusqu'à la haine du calcul et sa réduction de certains humains à des êtres calculateurs, eh bien non, il faut considérer que le calcul n'est certes pas suffisant pour l'éthique, mais qu'il ne peut avoir une puissance éthique à une condition, par exemple chez les utilitaristes, c'est qu'ils aient une définition claire du plaisir et de la douleur. Le calcul, alors, n'est pas seulement calculatoire, il s'oriente sur une conception de la vie humaine, de l'opposition du bien et du mal, de la vie et de la mort. En réalité, l'éthique, en effet, dépasse toujours le calcul, parce qu'elle fait des choix de valeur et pas seulement des opérations abstraites. Et parce que pour beaucoup d'éthiques, en effet, il y a des choses qui dépassent tout calcul, des principes absolus. La dignité, dit Kant, est ce qui est supérieur, ce qui n'a pas de prix, ce qui ne se calcule pas. En effet, il y a des choses qui ne se calculent pas. Il y a des choses qui dépassent tout calcul. Mais il peut y avoir aussi des calculs éthiques si on calcule dans le relatif, dans la peine, dans la souffrance, dans le déchirement, dans les décisions difficiles, un peu plus de bien que de mal, un peu plus de plaisir que de souffrance, sachant que le plaisir a quelque chose d'absolu contre la douleur et la vie contre la mort.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riad Kera et Nicolas Berger, avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Philippine de Bellois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.